Tous, le Seigneur vous bénisse ce matin. Et je crois que la prochaine fois, on sera obligé de faire du feu, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, ça recommence, mais c'est bientôt Noël, bientôt mon anniversaire. Non, je ne vous dirai pas que c'est le 5 février. Mais quand même, c'est le 5 février. Voilà, que Dieu soit béni. J'ai étudié pour vous, j'ai prié. Je pense que c'est nécessaire d'avoir des études de la parole de Dieu. Et on va étudier ce matin en particulier la première béatitude. Je vous invite à lire dans Matthieu chapitre 5, verset 1. Non, verset 3, pardon. Jésus dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. On a commencé cette série d'études, c'est déjà la troisième, je crois. Et on s'est embarqué dans les béatitudes, premièrement, vendredi déjà. Et en étudiant ces choses, je ne sais pas si vous avez eu cette pensée qui vous a traversé l'esprit, mais quand je lis le sermon sur la montagne, eh bien, j'ai l'impression que les béatitudes enseignent une doctrine du salut par les œuvres. Ça vous donne pas cette impression quand vous lisez le sermon sur la montagne? Parce qu'enfin, Jésus affirme clairement que les miséricordieux obtiendront la miséricorde. Il dit aussi que ceux qui ont un cœur pur verront Dieu. Alors, est-ce que cela ne vient pas à dire que c'est en manifestant la miséricorde qu'on reçoit la miséricorde en retour? Hein? Est-ce qu'on ne peut pas comprendre que c'est en devenant pur de cœur que nous pouvons voir Dieu? Voyez, si c'est le cas, alors les béatitudes, c'est une forme christianisée de la loi, si vous voulez. Hein? Et quand on lit les béatitudes, on s'aperçoit que Jésus est un législateur. On le voit qui promulgue des lois, très clairement, on le voit réclamant l'obéissance du peuple. On le voit qui promet le salut à ceux qui respectent ses lois. Quand on lit l'apôtre Paul, ou quand on lit par exemple Luther, le réformateur, eh bien, et qu'après, tout de suite après, on se met à lire le sermon sur la montagne a presque l'air d'une hérésie. Parce que c'est vraiment le contraire. Lisez le sermon sur la montagne, vous allez être étonnés. Il annonce la loi et non pas la grâce. Il offre la justice par les œuvres et non pas par la foi. Il y a un abîme réel entre Paul et Jésus dans le sermon sur la montagne. Personne n'a jamais pu combler cet abîme. Maintenant, quand on observe ce qui est issu du protestantisme, donc de notre cher ami Luther, eh bien, on s'aperçoit qu'ils en sont arrivés au point où les œuvres semblent même superflues. On est sauvé, youpi, c'est super, voilà, point final, on est chrétien, quoi. On pourrait dire au moins les catholiques, ils sont aussi pécheurs que les protestants, mais ils vont au moins se confesser, il y a toutes sortes de trucs. Non, c'est la foi totale, complète. Alors, la question que se posent beaucoup de théologiens, c'est la suivante. Est-ce que Matthieu, parce que Matthieu il a écrit son évangile tard, Paul avait déjà écrit ses lettres, est-ce que Matthieu n'aurait pas écrit son évangile pour faire une sorte de tract anti-paulinien? Il se pose la question très sérieusement, et je ne raconte pas des histoires. Si, par exemple, vous connaissez tous la Bible Scofield, qu'on peut trouver dans toute bonne librairie chrétienne et évangélique, si vous faites attention, mais c'est bizarre que personne ne m'a jamais fait remarquer ça, mais c'est pourtant tellement clair, quand vous regardez les commentaires de Scofield sur le sermon sur la montagne, vous allez voir que Scofield met le sermon sur la montagne au même plan que la loi. Absolument. Luther, le réformateur, quand il écrit sur le sermon sur la montagne, il met une parenthèse qui dure 10 pages, pour expliquer, pour réfuter l'idée monstrueuse que les faux docteurs catholiques, dépourvus d'intelligence, enseignent au sujet du salut avec la loi, avec les œuvres. Mais pourtant, il dit la même chose. Je vous cite une phrase de notre cher ami Luther. Il dit « C'est une abomination des sophistes. » Les sophistes, c'était du temps des Grecs, des gens qui discouraient pour prouver ceci, cela. « C'est une abomination des sophistes. Cette abomination des sophistes renverse l'Évangile au point de tout détruire en ébranlant son fondement et en bâtissant à la place un salut reposant sur une base mouvante d'où Jésus a été détrôné et remplacé par nos œuvres. » Mais il ne dit pas que le sermon sur la montagne fait le contraire. Alors, comment comprendre la manière que Jésus a eu de s'exprimer là? Alors, il faut toujours se replacer dans le contexte. Jésus, quand il parlait là, sur la montagne, il savait très bien qu'il y avait parmi ces gens des gens qui cherchaient simplement à être nourris, des gens qui cherchaient à être guéris. Il disait, il a un don de guérison, on va y aller pour être guéri, pour que la fille soit guérie, pour le fifi soit guéri, la grand-mère soit guérie. Il venait pour ça, c'était des incroyants. Il venait comme voilà, beaucoup de gens se servent de Dieu, le sort du tiroir quand ils ont besoin, ils le remettent après dedans, puis voilà quoi. Hein, il y avait beaucoup de gens comme ça. Puis Jésus savait aussi qu'il y aurait un livre qui serait écrit, et il savait très bien que les gens allaient lire, n'est-ce pas, ce fameux sermon, et qu'il y aurait beaucoup d'incroyants qui le liraient, beaucoup d'incroyants qui le lisent. Et la façon qu'il a de parler sur cette montagne, c'est pour montrer justement à ces incroyants que personne ne peut pratiquer la loi. Il veut bien enfoncer ça. Il veut bien enfoncer que personne ne peut pratiquer la loi, même en faisant des énormes efforts. Ce n'est pas possible. Il dit la loi, elle dit ça, mais moi je vous dis encore pire. Vous avez remarqué ça? Il dit, vous pouvez faire tous les efforts que vous voulez, moment présent après moment présent, il y a toujours un moment où pouf. C'est désespérant ce sermon sur la montagne. Je suis désolé, il est désespérant quand on regarde comme ça. Il veut que les incroyants apprennent que Jésus-Christ est le seul à pouvoir les aider à pratiquer la loi. Mais il ne leur dit pas. Il veut qu'ils en aient l'intuition. Qu'ils se mettent à chercher. Puis Jésus sait aussi que nous allons lire, que nous allons étudier ces choses-là, nous les disciples. Et il veut que nous sachions qu'il est notre justification. Nous avons accepté qu'il est notre justification. On sait bien qu'on n'est pas justifié par nos œuvres, mais qu'il est notre justification. Alors, nous qui savons que Jésus est notre justification, nous apprenons que la loi, elle est bonne pour nous indiquer comment, à partir du moment où on est juste, pratiquer des choses qui sont agréables à Dieu, moment après moment. Il ne veut pas qu'on pense qu'il n'y a plus besoin de loi. Mes frères et sœurs, la loi, l'apôtre Paul le dit, elle nous conduit à Christ afin que nous soyons justifiés par Christ, rendus justes, rendus purs de cœur aux yeux de Dieu, à nos propres yeux par la foi, mais il veut aussi nous faire comprendre que Jésus-Christ nous renvoie à la loi pour une marche de sanctification. Voilà, c'est comme ça qu'on doit comprendre le sermon sur la montagne. Et si vous ne comprenez pas le sermon sur la montagne comme ça, si vous faites que de lire le sermon sur la montagne pour lire ce que Jésus dit et ce qu'il pense, et puis c'est tout, que vous ne sortez pas ça du contexte, que vous n'ayez pas une réflexion spirituelle, eh bien je vous assure, c'est désespérant ce sermon. Pourquoi c'est désespérant? Parce que c'est un idéal inaccessible. Inaccessible. Celui qui ne comprend pas que Jésus parle à deux sortes de publics, et qui dit deux sortes, pour dire deux sortes de choses dans les mêmes phrases, c'est-à-dire il dit une chose à chacun de ces publics, il va se demander, mais comment est-ce que je vais pouvoir tendre la joue gauche quand on frappe sur la joue droite? Comment est-ce que je vais pouvoir aimer mes ennemis, etc., etc., etc. C'est pas possible, c'est impossible. On peut faire ça une fois, deux fois, et on se fatigue. Oui, mes frères et sœurs, sans Jésus-Christ, c'est impossible. Le sermon sur la montagne est une chose impossible. Avec Jésus-Christ, ça devient impossible. Avec son secours, avec son esprit qui est en nous, ça devient impossible. Mais pas comme ça non plus. Il faut toute la vie. C'est une marche, comme je vous le disais vendredi soir. Le sermon sur la montagne, c'est la loi de Moïse multipliée par quatre. Multipliée par quatre. C'est la loi poussée à son plus haut niveau, à son plus haut point. On parle des Juifs qui ont créer 613 commandements à partir des 10 commandements, mais Jésus, il n'a même pas eu besoin d'en créer 613. Il est tellement cinglant dans sa façon de parler qu'on est tous écroulés. On ne peut pas, on ne peut pas, il n'y a pas, on ne peut pas. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas? Parce que, mes frères et sœurs, c'est une loi basée sur la justice du cœur. Et ça, cette justice-là du cœur, je vous le garantis, c'est vrai. De Adam jusqu'à moi, il n'y en a pas un qui a réussi à la mettre en pratique toute sa vie. Pas un. Aucun chrétien, personne. Cette loi ne peut que nous condamner. Que nous condamner. Cette loi, elle nous révèle, si on veut bien comprendre tout le message du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, elle nous révèle notre puissant besoin du pardon de Dieu par Jésus-Christ. Mais Jésus n'en parle pas. Lisez le sermon sur la montagne. Il a une foule, il pourrait très bien leur expliquer. Il ne leur explique pas. Est-ce que Jésus leur dit comment devenir un chrétien? Non. Il joue à quoi? Est-ce que Jésus leur dit comment devenir des chrétiens? Non. Pas du tout. Il ne leur parle que des œuvres, que des résultats qu'il attend, des fruits qu'ils doivent porter, et que personne ne peut produire par lui-même. Personne. À moins d'être déjà au bénéfice de la grâce. Alors, mais il n'enseigne pas la grâce. Vous comprenez pourquoi je vous disais au début que le sermon sur la montagne, il est pour nous. En fait, Matthieu l'a écrit pour des croyants. Ce sermon, il présuppose que nous avons déjà accepté l'évangile de Jésus-Christ, que nous avons déjà passé par l'expérience de la nouvelle naissance, que nous avons déjà passé par l'expérience de la conversion, que nous sommes déjà remplis du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit est en nous pour nous soutenir, pour nous inspirer, pour nous donner la force d'accomplir les œuvres qui plaisent à Dieu. Et non pas pour accomplir des œuvres pour être sauvés. Alors, quand on sait ça, les béatitudes, elles présentent des bénédictions qui sont dispensées par Dieu comme des cadeaux et non pas comme des récompenses. Mais quand on le lit tout cru, on pourrait penser que c'est des récompenses. Mais non. Par exemple, ceux qui ont le cœur pur. Mais qui a le cœur pur? Personne n'a le cœur pur. Sauf les véritables disciples de Jésus, ils ont le cœur pur parce qu'il a été purifié par Jésus. Mais Jésus n'avait encore purifié personne quand il a dit ce sermon-là. Vous voyez? Vous comprenez cette chose? Ces bénédictions ne sont que des purs dons et non pas des récompenses. Ces bénédictions sont des dons qui sont accordés à ceux qui se laissent façonner par Jésus pour devenir conformes à l'image que Dieu attend. Voilà à qui sont faits ces dons. Alors, mes frères et sœurs, c'est prendre tout à l'envers que d'essayer de se sauver par les œuvres, d'essayer de faire des bonnes œuvres, de s'efforcer de faire des bonnes œuvres. Non, ce qu'il faut faire, c'est aller sur les genoux et prier Dieu qu'il nous donne les forces pour pouvoir faire les bonnes œuvres tout au long de nos journées. Avec Michou, on était dernièrement chez des amis qui ont des problèmes par-dessus la tête, mais vraiment par-dessus la tête. Et nous disent, on ne sait pas comment faire. Pourtant, c'est des chrétiens, prêchent tout. Et Michou leur a dit, mais allez écouter. Elle a donné quelques titres de prédication que j'ai faites. Ils ne savent pas commencer leur journée par des prières d'autorité pour éloigner les mauvais esprits, pour demander à Dieu d'envoyer ses anges, pour nous conduire, pour nous diriger. Ils ne pensent pas dans leur prière que Jésus habite en eux et veut se manifester au travers d'eux et qu'il veut produire lui-même ses œuvres, lui-même ses miracles, lui-même ses situations merveilleuses. Ils n'y pensent pas, ils s'efforcent. Et comme ils n'y arrivent pas, ils ont recours au bras de la chair, toutes sortes de choses qui sont... C'est désespérant, parce qu'ils ont une mauvaise compréhension du sermon sur la montagne, une mauvaise compréhension de ce que c'est que la grâce, l'état dans lequel nous vivons à l'heure actuelle. Il faut que nous, ici au sanctuaire, et vous qui écoutez sur Internet, vous soyez au courant de ces choses, afin que vous ne vous trompiez pas et que vous ne soyez pas lassés, désespérés et découragés. Mes frères et sœurs, c'est dans la logique de Dieu. Est-ce que vous pensez que Dieu peut exiger de nous des choses qui nous sont impossibles. Non. Dans un premier temps, il l'a fait avec Israël pour leur montrer que ce n'était pas possible. Mais il leur a donné une porte de secours, les sacrifices. Non ? Par les sacrifices, ils pouvaient être purifiés. Voilà. Mais il n'y a plus les sacrifices. Il y a eu un sacrifice. Et maintenant, il nous donne le pouvoir, par la foi, de nous relever continuellement et de nous croire purs, et de nous croire pardonnés, de nous croire purs, parfaits aux yeux de Dieu. Ceux qui sont sans arrêt en train de s'accuser, de s'auto... Mais Dieu est étonné de vous voir dire ça. Dieu est étonné de vous voir négatif à votre propre sujet, parce que lui, il vous voit pur, au travers du sang de Jésus-Christ. Avez-vous compris la grâce? Il nous donne le pouvoir de vouloir, le pouvoir de faire, avant d'exiger de nous de faire ces choses. C'est un monstre autrement. C'est comme si on exigeait de Timothée qui nous récite l'alphabet à l'envers. Je ne suis même pas capable de le réciter à l'endroit. Il sait à peine parler. Vous voyez? Alors c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la nouvelle alliance. C'est la grâce et non la loi. Il y a toujours eu ces deux aspects dans le Nouveau Testament. Et vous les trouverez toujours dans le Nouveau Testament. Et beaucoup de gens sont troublés à cause de ça. Dans le Nouveau Testament, il y a un, la déclaration de ce que Dieu a fait pour nous, c'est-à-dire à notre place. Il a pris nos péchés, il s'est souillé, il s'est sali de la salissure que nous avions pour que nous puissions avoir la pureté qu'il avait lui, qu'il a de toute éternité. Et ça, il l'a fait à notre place, il a porté tout ça et il nous offre cette pureté comme un cadeau. Deuxièmement, il y a les commandements dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, qui sont l'affirmation de ce que Dieu exige de ceux qui se placent au bénéfice de ces cadeaux. Tu veux prendre les cadeaux, il y a un prix. C'est un cadeau, mais il y a un prix. Parce que le cadeau, c'est pour le moment, tu es pur. Dans un moment précis, quand tu reçois Jésus-Christ, tu es purifié de tout péché. Et maintenant, ben, il te reste à vivre. À vivre pur. Mais comment? Ben, par la foi que Dieu n'est pas en colère contre toi, que Dieu est capable de te relever, que Dieu est capable de te conduire, que Dieu est capable de te diriger, de t'inspirer, de te faire grandir, de te faire mûrir, de t'amener à la perfection. Et si tu ne crois pas ça comme ça, et si tu ne vis pas ça comme ça, et si tu ne t'inspires pas de ces commandements pour y arriver, tu es fichu. Ou alors tu es amnésique au sujet de tes propres péchés, et puis tu vois toujours les péchés des autres. Ça, c'est aussi une façon de faire. Alors voilà, il y a ces deux choses. Les commandements dans le Nouveau Testament sont l'affirmation de ce que Dieu exige de ceux qui se mettent au bénéfice de sa grâce. Mais on n'a pas sa grâce parce qu'on a obéi. Il faut être intelligent pour comprendre. Il faut être intelligent pour comprendre. Et c'est pourquoi il faut demander au Saint-Esprit de nous renouveler dans notre intelligence pour que nous comprenions parce qu'il en va. Il y va de notre vie. De notre vécu de tous les jours, de notre confort. On a une zone de confort, il faut qu'on soit dans le confort. Si on n'est pas confortable dans notre foi, mais c'est horrible. On est toujours déchiré, c'est épouvantable. Se dire oui, bon, enfin bon. Il y a, l'autre jour, j'étais à Carrefour, et il y a un type ou une bonne femme, je ne sais pas, qui a écrit un bouquin et s'est écrit « Tu iras en enfer » dessus. Je dis, ben, pauvre vieille, non, sûrement pas. Mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui disent « Ah, oh, ben ça, c'est sûr. » Vous comprenez? Parce que on se sent indigne. Alors on peut se sentir indigne puis être sûr d'aller en enfer parce qu'on ne connaît pas la grâce de Dieu. On connaît ses lois, ses exigences. Alors on va voir plus en profondeur les lois de la grâce. Tiens, ça va être le titre de la prédication, les lois de la grâce. On peut être classé en deux catégories. Premièrement, il y a les quatre première béatitude qui nous parle de nos relations avec Dieu. Et puis il y a les quatre dernières qui nous parlent de nos relations avec notre prochain. Alors on va prendre donc à partir d'aujourd'hui la première béatitude. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ou d'après Luc, heureux les pauvres, même pas en esprit, les pauvres tout court. Voilà. Être pauvre, ça signifie quoi être pauvre? Être pauvre, c'est être dans un état de dénuement total, matériel avant tout. Hein, quand on pense pauvre, voilà. C'est vrai qu'il y a des pauvres petites filles riches, mais bon. Le pauvre n'a pas d'autres ressources que Dieu. Je vous avais déjà parlé, le pauvre, qu'est-ce que c'est le pauvre selon Dieu? Hein, vous vous rappelez de ça? Quand on va en Afrique, c'est frappant. Il y a des fois des gens qui disent, « comment ça se fait qu'il y a tant de miracles en Afrique ?» C'est parce qu'ils n'ont rien d'autre. Ils sont tellement pauvres. Vous savez, il y a déjà une différence, il y a Afrique et Afrique. Vous allez en Afrique, dans les villes, il y a beaucoup moins de miracles qu'en Afrique, dans la brousse. Pourquoi ? Alors, il y a des gens qui disent, « c'est parce qu'ils sont simples comme des enfants. » Pour ne pas dire complètement crétins et qui croient le dernier qui a parlé. C'est un peu ça qu'ils veulent dire. Mais ils le disent d'une façon gentille, mais c'est un petit peu ça. Ce n'est pas ça la réalité. Dans la brousse, ils sont tellement pauvres, de pauvres, de pauvres, qu'ils ne peuvent pas se soigner. Et il n'y a personne pour les soigner. Il n'y a personne pour les aider. Alors quand ils entendent dire que Jésus guérit, ils écoutent, ils comprennent et ils prennent beaucoup plus facilement que ceux qui se disent « Oui, de toute façon, si ça ne passe pas, j'ai toujours une aspirine, j'ai toujours la possibilité d'aller me faire des infiltrations. » Non ? Ben oui, c'est comme ça, mes frères et sœurs. Il y a une différence déjà entre il y a Afrique des villes et Afrique des champs, hein. Et puis nous aussi, chez nous, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup moins de miracles chez nous ? C'est pas très compliqué. On a tout. On a tout. Moi-même, dans ma poche, vous voyez, si j'ai des aigreurs d'estomac, hop ! Est-ce que j'ai déjà prié ? Chérie, je crois que j'ai jamais prié pour que Dieu m'enlève ces aigreurs. Ça m'est même pas venu à la pensée. Je suis caché. C'est du renie. On est comme ça, on a tout. On n'est pas des pauvres, hein. Mais ils n'ont que Dieu. Le pauvre, il est affligé, il est incapable de se sauver par lui-même, il est incapable, il n'a personne, il ne peut pas se guérir. Alors il s'en remet à Dieu pour son salut, pour sa guérison, pour sa délivrance, pour sa protection, pour tout. Il sait qu'il ne peut pas se glorifier parce qu'il sait qu'il est complètement dépendant, il ne peut glorifier que Dieu, c'est son sauveur. Jésus le savait très bien quand il est venu et il a pris la parole dans la synagogue, il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». L'Esprit, en effet, a fait de moi le Messie, hein, je paraphrase. Hein, il m'a envoyé pour porter un message joyeux aux pauvres, aux humiliés, dans d'autres versions. C'est toujours pareil de nos jours, mes frères et sœurs. Prêcher aux pauvres, prêcher aux riches, c'est deux choses. Je prêche en ville ou je prêche dans les champs, c'est tout à fait différent parce que l'auditoire est différent. Les riches, ils ont la fâcheuse tendance à se compromettre avec le paganisme ambiant. Mais oui. Alors, être pauvre en esprit, c'est reconnaître qu'on a fait faillite spirituellement devant Dieu. Nous sommes des pécheurs, on mérite que la colère de Dieu, que le jugement de Dieu. On n'a rien à offrir à Dieu, mais vraiment rien à offrir à Dieu pour se faire valoir. On ne peut pas faire des bonnes œuvres pour on le sait, on est pauvre, on n'a rien, on peut rien faire qui puisse acheter sa faveur, rien. Voilà ce que c'est être pauvre en esprit. C'est une conscience, c'est avoir conscience. C'est une personne qui reçoit le salut avec humilité et qui se rend dépendant comme un enfant. C'est ça que ça veut dire, devenir comme des enfants aussi. Ça ne veut pas dire que ça, mais ça veut dire ça aussi. Jésus, il commence par là. Le salut est offert aux pauvres, pas aux riches.
C'est pas juste.
Il est offert aux faibles, pas aux puissants, aux gens qui sont assez humbles pour le recevoir et non pas à ceux qui cherchent à l'acheter en l'impressionnant. Quand Jésus était sur la terre, le royaume de Dieu n'était pas réservé aux pharisiens. Lisez un peu ce que Jésus en pense. Les pharisiens, ils rendaient grâce à Dieu. Ils étaient si pieux, ils se croyaient si utiles dans l'œuvre de Dieu qu'ils en rendaient grâce à Dieu. Seigneur, je te remercie que je ne suis pas comme cette fripouille là derrière. Tu as fait de moi quelqu'un de... Mais c'est... Vous voyez un petit peu, mais c'est terrible. Comment ça peut être tortueux. Ce n'était pas non plus réservé aux zélotes qui, eux, rêvaient d'établir un royaume, n'est-ce pas, par la violence, les zélotes. Non, le salut, c'était pour les prostituées. C'était pour les publicains, c'était pour les pauvres, les bannis de la terre, les lépreux, les rejetés, les veuves, les orphelins. Voilà. C'était pour ceux qui se savaient démunis et qui avaient donc tout à recevoir, sans pouvoir donner quoi que ce soit en échange. Et c'est ça, Jésus a fait ça et il veut que nous fassions ça aussi, que nous donnions à ceux qui sont incapables de nous rendre, incapables de nous donner quelque chose en échange. Ces gens-là, ils pouvaient, ces prostituées, ces publicains, ces bannis de la terre, ils ne pouvaient qu'implorer la miséricorde divine et Dieu a entendu leur cri. Il est venu pour eux. C'est ce que dit Jésus à l'église de Laodicée, c'est-à-dire à l'église de notre époque. Vous voyez que ça n'a pas changé, c'est toujours pareil. À l'église de notre époque, il dit, tu dis, je suis riche. L'église dit, je suis riche, j'ai tout. Je suis riche, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien. Alors Michel arrive avec ceci, avec cela. Mais non, on connaît, c'est, non, on sait. Michel Jonton arrive avec la révélation de la vie communautaire. Oh non, non, mais ça c'est une erreur des apôtres. Arrive avec le baptême pour les morts. Oh non, mais ça c'est une hérésie. Oui, un petit verset dans la Bible, mais bon. Pff. Je sais, j'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Tu ne sais pas, tu ne le sais pas. Un riche, il ne sait pas qu'il est riche. Il a bien conscience qu'il n'a pas besoin de Dieu. Je suis riche, j'ai pas besoin. Ça va, je peux me débrouiller autrement. Vous voyez? Ils se disent chrétiens, mais ils le sont, mais ils ne sont pas disciples. Vous voyez une toute petite différence, mais les détails. Ils sont reconnus par les puissants, ils sont reconnus par l'État, ils sont reconnus par les riches de ce monde. Voilà. Mais Dieu ne les reconnaît pas. Mes frères et sœurs, vous voyez, aujourd'hui encore, il est indispensable de reconnaître notre pauvreté spirituelle. Et cela pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Il y a un texte terrible. Quand je dis qu'il est venu pour les pauvres et pas pour les riches, je vais me dire, mais c'est méchant. Non, Luc 1, 53. Dieu renvoie les riches les mains vides. Alors, mes frères et sœurs, que Dieu nous vienne en aide, qu'on ne soit pas dans l'illusion. La seule façon que nous avons de nous élever dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire dans la vraie Église, c'est de nous abaisser, c'est de reconnaître notre pauvreté. De reconnaître notre pauvreté, notre inutilité, notre dépendance totale à notre Dieu Tout-Puissant. Quand on reconnaît notre propre pauvreté, alors on se tourne vers Dieu. C'est le seul qui puisse nous élever. C'est le seul qui puisse nous élever au temps convenable, parce que ce n'est pas toujours le moment convenable. Et puis, c'est le seul qui puisse nous élever de façon convenable, parce qu'il y a des fois des façons pas convenables de s'élever, pas convenables aux yeux de Dieu. Alors, soyons humbles, c'est-à-dire réalistes selon la parole écrite de Dieu. Regardons-nous là-dedans avec vérité. Veillons à ne pas avoir de nous-mêmes, comme dit l'apôtre, une opinion trop élevée. Soyons humbles, parce que s'il y a quelque chose de bon en nous, l'apôtre dit, mais pourquoi te glorifier? C'est Dieu qui te l'a donné. Or, si c'est Dieu qui l'a donné, soyons dans la gratitude, et puis avec ce qu'il nous a donné, aidons les autres qui n'ont pas ou qui ont moins. Sachons pas seulement donner, mais sachons aussi recevoir d'eux ce qui nous manque, et puis ayons une vie de prière, une vie de soumission à Dieu et à l'ordre établi par Dieu, et ainsi nous serons corrects, alignés, sur le serment sur la montagne. Sinon, c'est impossible. C'est impossible. Ça reste un beau texte, mais un texte qui est culpabilisant au possible, comme c'est pas croyable. Que Dieu nous éclaire, et que Dieu nous aide. Je vous invite à pendant les quelques temps qu'on va étudier le serment sur la montagne, à le lire régulièrement, plusieurs fois, de vous en imprégner, et vous allez voir, Dieu va vous révéler aussi des choses à vous que je vais vous dire par la suite au sujet de tout ce que nous allons lire. Mais c'est bon que Dieu vous parle aussi. Mais comment voulez-vous que Dieu vous parle? À partir de rien. Il faut d'abord regarder ce qu'il a dit là, et à partir de ce qu'il a dit dans le livre, il peut vous révéler, vous éclairer, vous aider à comprendre mieux, afin de vivre mieux pour sa gloire, pour votre bien et pour le bien de votre prochain. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus de nous aider encore ce matin à nous mettre vraiment au niveau là où nous sommes, et que nous ayons cette humilité de reconnaître que tu es le Dieu Tout-Puissant et que si nous nous considérons riches, tu nous renvoies les mains vides. Merci Seigneur Jésus de nous aider à non pas rester dans cette pauvreté, ce misérabilisme, mais aide-nous à nous tourner vers toi afin que notre élévation vienne de toi. Merci Jésus. Amen. Amen.